Maintenant, nous allons voir la petite voix, une question de Sophie et de Nice Day. Si on n'est pas encore au point avec l'écoute de sa petite voix, comment se guider quand la transition aura lieu? Comment développer cette capacité à savoir ce qui est bon pour moi? Bah, écoutez, la difficulté, bien sûr, c'est de se dire, ma petite voix que j'entends, est-ce que c'est la bonne? Parce que, bien sûr, notre mental ego, c'est pas un con. Il se dit, si y a une émission de radio qui raconte toute la vérité, rien que la vérité, ça va m'embêter, parce que moi, tout est tromperie. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire une autre station radio à côté, et je vais essayer de raconter, avec le même style, mes conneries à moi. Donc, comme ça, bah, la personne, elle se dira, mais en fait, c'est quelle station qui raconte la vérité, parce que j'arrive pas à les distinguer l'une de l'autre. Et donc, tant qu'on n'a pas réussi à distinguer, on va dire, la vraie petite voix de la fausse, de l'imitateur, parce que dites-vous bien que notre mental ego est un imitateur né. Il n'a pas envie de se faire berner, puisqu'il vous berne déjà. Et donc, berner celui qui vous berne, ça ne joue pas, c'est pas son truc. Hein. Donc, tant que vous n'aurez pas fait la différence entre la petite voix, la fausse petite voix et la vraie, eh bien, vous êtes mal. Il faut le dire. Donc, quelle solution? Ben, moi, j'en ai trouvé qu'une, c'est expérimenter. C'est-à-dire, vous en écoutez une. Hein, vous verrez, ça a une fréquence bien précise. Hein, vous allez avoir un ressenti particulier par rapport à ça. Vous l'écoutez. Et vous dites, ok, je mets en action ce que tu me dis là. Ok, je fais. Et puis, ben, vous allez voir que au fil du temps, vous allez de plus en plus arriver à cerner la bonne de la mauvaise, comme on dit. Parce que la mauvaise, généralement, elle vous emmène dans le mur, alors que la bonne, eh ben, vous avez nettement moins de casse, si c'est pas pour pas dire que vous avez que du bon. Donc, en clair, ben, vous allez cerner tout de suite quelle est la station émettrice qui vous crée les emmerdes. Et à ce moment-là, ben, vous changez de canal et vous dites « Ok, je me règle sur l'autre et c'est fini ». Et vous allez voir que le mental ego, autant il peut être doué à imiter, autant il ne pourra jamais remplacer l'original. Il y aura toujours un mot. Il y aura toujours un truc qui déconnera quelque part. Vous savez, quand quelqu'un parle français, dès qu'il utilise un mot au masculin alors que c'est du féminin, vous savez tout de suite que ce n'est pas sa langue natale. Pourtant, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il vit en France et qu'il parle le français. Et son vocabulaire est peut-être absolument, peut-être encore plus grand que le vôtre. Mais il a fait une erreur fondamentale sur un féminin. Et ça vous le dit. Eh bien, c'est la même chose pour votre petite voix, la vraie et la fausse. C'est que la fausse, si vous écoutez bien, il y aura toujours un petit couac quelque part. Et quand vous l'avez chopé, vous dites « Ok, celle-là, c'est bon. Hein? » Mais c'est que par l'expérimentation. Je suis désolé, mais on est tous uniques et on ne peut pas enregistrer la petite voix, quoi. Donc, la petite voix n'est pas forcément quelque chose de sonore, hein, je le rappelle. Hein? Hein, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous parle du haut de la montagne. Une question de Shira. Quand tu parles de nos créateurs, tout ce dont tu parles ne marche que pour l'Homo sapiens. Qu'en est-il pour les autres peuples venus sur Orontia Gaia et qui ne se sont pas mélangés? Certains m'ont dit de ne pas être affectés par le voile de l'oubli et de ne pas être dans ce projet d'ascension puisqu'ils vivent déjà une transversalité de type native. J'ai pas bien compris. Ben, moi non plus. Donc, chacun vit son ascension à sa manière, avec les interprétations mentales qu'il veut avoir. Et si pour certains, rejeter un certain nombre d'éléments leur permet d'être centrés et de vivre leur être-té, super. Mais ça ne veut pas dire que ces mêmes points sont les tiens. En clair, quelles que soient les races qui sont déjà venues sur Terre, et nous n'avons pas été les premiers à venir sur Terre, c'est vrai, eh bien, on s'en fout. Ils ont eu leur vie, leur destin, leur expérience, et on aura peut-être le temps d'y jeter un œil quand on sera en 5D, 6D, en se disant « Ah mais, au fait, c'était qui les voisins d'avant dans l'appartement, quoi ?» Peut-être, peut-être pas. Mais aujourd'hui, dans cette vie, est-ce important? Pas du tout. Parce qu'on te demande de vivre ton unicité, on te demande de vivre ton instant présent, ici et maintenant. Alors qu'est-ce qu'on a, excusez-moi, à foutre, des gens qui ont vécu il y a 15 000 ans, 20 000 ans, 100 000 ans, ou 3 millions d'années avant nous? On s'en fout. Parce que même si on te donnait une réponse vraie, valable, vraiment du lourd, est-ce que ça va changer ta vie aujourd'hui? Est-ce que ça va changer ta capacité à être ce que tu es? Non, aucunement. Donc c'est vraiment le genre de question du mental ego qui essaye de te fourvoyer parce que simplement d'autres disent qu'ils vivent leur pleine transversalité. Bah, formidable. N'essaye pas de vivre ce que d'autres vivent. Vis ce que tu as à vivre. Puis c'est tout. Une question de Fabien. J'aurais aimé savoir ce qu'il en est des êtres tels que les elfes, fées, lutins, licornes, sylphes, ondines et tous les autres. Existent-ils vraiment et que sont-ils? Alors oui, ils existent. Formés, c'est sûr qu'ils existent. Vous savez, quand on dit que on s'est incarné sur Terre, on a commencé à être dans des minéraux, puis après dans des végétaux, et puis après dans des animaux, pour tomber dans des trucs qu'on dit humanoïdes. Mais comment se sont faites ces différentes transitions? Eh bien, quand on était minéral, on était coincé, on était certes dans un minéral, et puis on était là, et puis on se disait, voilà, qu'est-ce qu'on glande, qu'est-ce qu'on va foutre, et qu'est-ce qu'on doit apprendre, et ceci et cela. Ok, d'accord. Quand vous passez dans le monde, on va dire végétal, c'est-à-dire que vous passez dans un stade vibratoire, la 2D, eh bien, c'est là qu'on va rencontrer effectivement tout ce qu'on appelle les élémentaux, puisque tout ça, ça appartient au moteur de la Terre. Donc, ce sont des entités au même titre que nous. Simplement, ils ne sont pas incarnés dans un corps plus évolué que nous, parce qu'ils sont leur propre stade d'évolution. Donc, en clair, on pourrait presque dire, et je dirais même que c'est une certitude, d'une certaine manière, c'est que nous avons été des élémentaux avant d'être des préhumains. Donc, ce sont des stades de conscience correspondant à certains règnes. Et donc, si nous nous sommes séparés des élémentaux en termes de relation, de communication avec eux, c'est parce que, littéralement, nous avons décidé de détruire, on va dire, le moteur de la Terre, que sont le 1D et la 2D. Donc, quand on prend des cailloux, qu'on les casse, qu'on casse des montagnes, qu'on prend tout ce qui est végétal et qu'on leur fout du Roundup, qu'on scie, qu'on coupe, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans un cycle de destruction massive du moteur de la Terre, c'est-à-dire de la 1D et de la 2D. D'après vous, est-ce qu'ils sont copains avec nous? Ils se disent, plus on fuira les humains, enfin les pré-humains, et mieux on se portera. Mais de toute façon, ces cons-là, ils sont capables de nous buter. Excusez-nous, mais quand on aura véritablement détruit la planète à ce niveau-là, d'après vous, où seront-ils? Donc, nous sommes des inconscients. Ça, c'est évident. Et donc, globalement, on est des corrosifs. Et donc, tant que nous n'aurons pas à reconnecter avec notre moteur de 4D, c'est-à-dire le cœur, et donc cette conscience de l'unité, eh bien, on continuera à prélever, à saccager tous nos frères qui sont, comme on dit, dans les règnes inférieurs, c'est-à-dire 1D, 2D et 3D. Donc, la moindre des choses, déjà, c'est bien sûr de ne plus bouffer de l'animal. Ce serait déjà une bonne chose, puisque ça appartient à notre cadre spatio-temporel de 3D, 4D, à notre moteur de l'humain. C'est déjà un grand pas en avant. Mais vous verrez que plus vous avancerez dans votre cheminement, c'est-à-dire en 5D, 6D, ce qui s'appelle la conscience divine et la conscience de l'unité, eh bien vous ne pourrez plus du tout toucher le monde végétal et minéral comme on le fait aujourd'hui. On sera empreint de respect vis-à-vis de ces mondes. Et donc, tous les gens qui sont jardiniers savent très bien que s'ils veulent des beaux légumes, il faut qu'ils les aiment, ces légumes, il faut qu'ils les respectent, ces légumes. Et donc, ils ne leur mettront pas toutes les saloperies au cul pour dire « Oui, mais si je ne le traite pas de ceci, elle va avoir telle maladie, ceci et cela. » C'est aimez-les pour ce qu'ils sont, respectez-les pour ce qu'ils sont, parce que s'ils n'étaient pas là, nous serions morts. Voilà pourquoi, quand nous passons en conscience divine, qui est dans la 5D, globalement, nous regardons les végétaux avec un autre regard, car nous voyons l'étincelle de vie en ces végétaux. Et puis quand nous passons dans la conscience de l'unité, on découvre que le monde minéral est la plus grande puissance qu'il puisse y avoir. Ce sont les êtres les plus proches de la source, parce que physiquement, ils ont la vibration. Bien sûr, extérieurement, on dit « ouais, c'est des cailloux, ça bouge pas, ils sont pas en vie, ils sont inertes », ce qui est totalement faux. C'est totalement faux. Ils sont habités par les vibrations de la source avec une puissance monumentale. Donc quand on passe de la conscience divine à la conscience que l'on appelle de l'unité, eh bien, on a la force des cristaux avec nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si le réseau cristallin se réveille et se rend en pleine puissance au 12-12-12, c'est parce que nous allons de plus en plus vers la conscience de l'un. L'un est indissociable de l'autre. Si les cristaux ne se mettaient pas en route en balançant leur jus à fond les manettes, eh bien, nous ne serions pas attirés vers la conscience de l'unité. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de gens qui jouent avec les cristaux et qui se disent « il faut faire ceci avec cela, si tu veux corriger ceci et cela, etc. » Oui, c'est vrai. Dans notre monde de 3D, 4D, on peut dire, c'est une thérapie importante, mais c'est une thérapie qui reste, on va dire, excusez-moi, extérieure. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un minéral ou de quelque chose pour vous remettre en état. Quand vous passez en 4D, ben vous allez découvrir que c'est ce qui est à l'intérieur du minéral, c'est-à-dire l'entité, la vibration qui l'habite, qui véritablement vous répare, et pas le cristal lui-même. Donc, quand vous découvrez ce que vous êtes en étant votre être-té, c'est-à-dire en étant ce que vous êtes véritablement, vous verrez que vous êtes le co-créateur en action, et qu'à partir de là, même un minéral, vous pourrez le construire. Et c'est pour ça que je dis qu'en 5D, 6D, il n'y aura pas de maçon, il n'y aura pas de plombier, il n'y aura pas d'électricien. Parce que quand nous arriverons en 5D, c'est nous-mêmes qui allons construire les maisons. Mais nous demanderons aux minéraux leur vibration de telle sorte qu'ils s'assemblent eux-mêmes afin de construire la maison que l'on veut. Alors là, ça ne sera pas des parpaings avec du ciment. Ça sera comme un monocristal, quelque chose qui va s'assembler de lui-même parce que vous lui demanderez, de par l'amour que vous êtes, de par le respect que vous lui prodiguerez, eh bien, il s'assemblera à l'endroit où vous voulez. Et il sera heureux d'être votre maison. Parce qu'entre lui et vous, vous serez en harmonie parfaite. Voilà pourquoi il n'y aura pas de maçon. Ni d'électricien. Les pierres seront lumineuses d'elles-mêmes, lumineuses d'amour que vous leur produirez par l'attention et le respect que vous aurez à leur égard. Voilà comment le moteur de la co-création fonctionne dans les mondes dits supérieurs de 5D, 6D. Bien, on continue. Une question concernant les soins du corps physique. Une question de Florence. Je sais que tu n'es pas médecin, mais une question sur les ostéopathes. La manipulation du squelette est-elle dangereuse? Le squelette, justement, je viens d'en parler, c'est l'équivalent du monde minéral en nous. Donc, quelque part, les ostéopathes font quand même un boulot important parce que c'est la base même, on va dire, le squelette, de toute notre forme de vie. Je rappelle que ce sont nos os qui fabriquent notre sang. Et si nous n'avions pas de sang, nous n'irions nulle part. Hein ? Rien qui fonctionnerait. Donc, votre squelette, il faut, comme dirait l'autre, le choyer. Et le choyer, c'est simple, il y a plusieurs manières. D'abord, éviter tout ce qui va le casser d'une manière ou d'une autre. Donc, tous les sports violents. C'est pour ça que j'ai jamais joué au rugby. Quand j'avais fait quelques parties, j'ai vu que j'allais casser de la mécanique, j'ai dit nada. Parce que même une fracture, même se casser un bras ou une jambe, n'importe quoi, c'est jamais bon signe. Jamais. On dit, ouais, ça se ressoude. Oui, mais ça sera jamais comme avant. Donc d'abord, respect total, en ne faisant pas subir, je dirais, au squelette, des choses incompréhensibles pour lui. Ensuite, nous savons que ce qui détruit le squelette, c'est un autre minéral que l'on appelle le sucre. Donc, à chaque fois que vous mangez du sucre, vous venez détruire tout simplement votre squelette. Donc, si vous êtes atteint d'ostéoporose et de tout genre de trucs, dites-vous bien que vous êtes détruit par les quantités de sucre inimaginables. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est vrai. Donc, que dire par rapport à ça ? Eh bien, c'est que les ostéopathes sont là surtout pour vous faire comprendre que le squelette est vivant, au même titre qu'un autre organe. Ce n'est pas un truc mort. Et donc, le squelette a trois étages, puisqu'il y a trois moteurs. Vous avez un étage, on va dire, au niveau de la tête, tout simplement. Votre tête respire. Vos différents blocs d'os respirent. C'est simple. Pour vous en rendre compte, prenez un fil dentaire. Essayez de le passer entre les dents pendant tout un mois. Et vous verrez qu'en fonction de la lune, l'espace entre vos dents varie. Et donc c'est pour ça que quand vous allez chez un dentiste et puis qu'il vous remplit une dent à un moment donné, si vos dents sont très écartes à ce moment-là, lui il va mettre son truc normal, classique. Et après, arrive un moment, quand les dents vont se resserrer, ça va bloquer. Et donc vous dire, ah ouais, j'ai mal aux dents, je ne comprends pas, j'ai mal de crâne, j'ai des trucs, vous ne comprendrez pas. Bien, tout vient de là. Hein. Donc notre corps, notre squelette respire. Et vous verrez qu'il y a trois étages. Hein, il y a un étage au niveau de la tête qui est le moteur du ciel. Il y a un étage au niveau des épaules et du torse qui est donc celui du moteur de l'humain. Et vous avez le troisième étage qui est celui du bassin. Et vous verrez que ces trois étages ont leur respiration et leur rythme propre. Donc la différence entre un kiné et un ostéo est fondamentale. Un ostéo a obligatoirement été kiné avant. Simplement, le kiné, il dit le squelette est mort et donc je ne fais, si je fais des opérations dessus, je ne fais que des opérations de déblocage de trucs, c'est que du nono, c'est des trucs emboîtés, comme on emboîte des pièces détachées hein, en mécanique. Alors que l'ostéo a compris que c'était une mécanique qui vivait et qui avait ses propres rythmes. Donc, je conseille fortement d'aller voir des ostéos plutôt que des kinés, déjà dans un premier temps, parce que les ostéos, enfin, les ostéos jouent avec le vivant du squelette, alors que les kinés jouent avec la mort du squelette. Premièrement. Et deuxièmement, un ostéo, quand il vous débloque quelque chose quelque part, c'est parce qu'effectivement, il y a eu un malaise sérieux, c'est-à-dire soit par un choc, soit par ce qu'on veut, hein, eh bien, il débloque et fait de telle manière que le rythme de votre squelette puisse reprendre une marche tout à fait normale. Moi, je l'ai vécu, j'étais dans le sud-ouest de la France et je me suis fendu le crâne sur une porte, on peut dire. C'est-à-dire que suite à un entraînement, je suis allé aux toilettes, je commençais à blêmir, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes, mais comme je savais que j'allais pas très bien, j'ai laissé la porte des toilettes ouverte. Simplement, eh bien, avant de m'asseoir, d'arriver à m'asseoir complètement sur le trône, eh bien, je suis tombé en avant et je me suis pris la porte là, quasiment ici, là, sur le nez, et je me suis pris plein, mais imaginez, hein, ça a fait mal, et je suis tombé dans les pommes. Et quand on est venu me chercher, j'étais blanc comme un linge, hein, c'est évident, et on se demandait, et j'étais simplement tombé dans les pommes en prenant la porte. C'est pas difficile, le lendemain, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, je suis allé voir un ostéo, j'avais 8 de tension. Il m'a pris le crâne, il m'a fait je clac 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 quelque chose sur le crâne et je suis ressorti, j'avais 12 je sais plus combien de 12-13 de tension, impeccable, tout était revenu nickel quoi. Donc on peut dire que c'était pas la peine d'aller chercher quoi que ce soit ailleurs, c'était simplement un déplacement des os de la boîte crânienne qui avait fait que la machine fonctionnait plus quoi. C'est des trucs tout bêtes, hein. Donc un ostéo qui connaît vraiment son job. C'est quelqu'un qui redonne la vie au rythme du squelette. C'est-à-dire que le squelette, il a un blocage quelque part et on le débloque. On appelle ça donc faire de l'ostéopathie. Donc elle n'est pas dangereuse en tant que soi. Mais je veux dire, sincèrement, moins vous voyez de gens, mieux ça vous portera. Mais il y a quand même des fois, vous savez, comme pour dire, la meilleure dentition que vous puissiez avoir, c'était celle d'origine où il n'y avait aucune carie. Mais quand vous avez une carie, vous dites, maintenant, ok, d'accord, c'est plus comme avant. Et donc, dire, non, non, je ne verrai jamais le dentiste, vous allez voir carrément à un moment, vous allez craquer, y aller quand même. Donc, ce que je veux dire, il y a des soins, on va dire, palliatifs, minima. Faut le faire. Donc, allez voir un ostéo de temps en temps, suite à une chute, suite à quelque chose d'important et vous sentez que ça va plus vraiment très bien, il y a un truc qui va pas, eh bien, faut y aller, quoi. C'est comme chez le dentiste, quand ça vous tire sur le nerf et que vous pouvez plus parler ni manger, vous dites faut y aller, quoi. L'ostéo, c'est un dentiste, mais du squelette. Une question de Sophie. Par rapport à ton dernier éclairage, je ne comprends pas. Le sport est-il mauvais pour le corps? Alors ça, on a une question de dualité à fond les manettes. Parce que le sport, par définition, si on le met en opposition à celui qui reste dans son fauteuil tout le temps à regarder la télé, à s'engrosser avec du Coca-Cola et on va dire des pizzas à côté, c'est sûr que vaut mieux faire du sport. Nous sommes bien d'accord. Donc d'abord, entretenir son corps, c'est un minima de mouvement. Et donc le sport, vu sous cet angle-là, est bon. Simplement, dès que vous essayerez de devenir bon dans votre sport, c'est-à-dire de pousser votre mécanique afin de dépasser, on va dire, la moyenne des autres. Alors là, ça devient craignos. Donc moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais pas forcément du sport de compétition. J'en ai fait un petit peu quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté assez rapidement parce que j'avais compris que plus on veut être performant dans un sport, et plus on va malmener notre corps. Parce qu'on va le pousser dans des limites que lui n'est pas forcément d'accord. Mais comme votre mental est plus fort que ses limites, eh bien, vous allez le pousser. Alors votre corps répondra par des claquages musculaires, par des tendons qui claquent aussi, par des tas de choses comme ça, et vous direz, ah bah oui, bon là j'ai un peu tiré, j'ai pas assez échauffé, ceci, ceci, et on met trois pommades et deux machins, et on attend 2 mois, et on repart, quoi. Et voilà, donc, quand on pousse la machine trop loin, le corps de toute façon ne suivra pas, ça c'était déjà évident, mais deuxièmement, même sans aller jusqu'à cette casse, vous allez avoir une usure prématurée selon le sport que vous faites. Donc, moi je prends un exemple relativement simple, hein, puisque c'est le mien. Je faisais dans l'athlétisme, mais j'étais lanceur. Hein, donc, je faisais du lancer de poids, lancer de disque, lancer de javelot, lancer de marteau. Donc, les lancer. Donc, je peux vous dire que mon épaule droite, je suis droitier, que mon épaule droite s'en est ramassée un maximum. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancez un poids, c'est votre épaule qui prend. À chaque fois que vous lancez un disque, c'est votre épaule qui prend. Quand vous lancez le javelot, bah, vous avez et l'épaule et le coude. Et donc, ben, je ne pratiquais que cela, grosso modo. Donc, on peut dire que j'avais fait une petite usure, je dirais, anormale par rapport à des gens qui font du vélo, par exemple. Et après, ben, je faisais du volley parce que ben, il fallait faire de la souplesse. Et donc, ben, quand vous faites du volley, ben, forcément, vous smashez. Donc, vous cognez comme une brute dans le ballon. Et c'était toujours avec la main droite. Et un jour, à la médecine du sport, parce que c'était obligatoire pour renouveler la licence, il y a un mec qui l'a regardé, il m'a dit vous avez fait de l'athlétisme, vous avez fait du lancer de javelot ou un truc comme ça. Il dit comment vous pouvez le savoir? Ben, il dit c'est simple, vous l'usure que vous avez, il n'y a que ces gens-là qui ont fait ça, qui peuvent avoir cette usure précise au niveau du squelette. J'ai dit merci. Hein? Et ben, je peux vous dire qu'il y a des fois j'étais obligé d'arrêter le sport de l'athlétisme, j'ai arrêté très tôt, mais le volley, j'étais obligé de l'arrêter, je pouvais même pas passer les vitesses dans la voiture. Vous savez les vitesses, le levier de vitesse. Je posais la main sur le vitesse, je ne pouvais même pas passer les vitesses, tellement j'avais l'épaule qui était complètement usée. Donc, quand je dis que le sport use, oui, il use quand on dépasse les limites, quand on veut être performant. Donc, si vous faites du sport pour remuer votre cul, super, mais dès que vous voulez, je dirais, dépasser juste le stade de l'amusement et comment vous vous remuez, eh bien, automatiquement, vous allez avoir une usure précise. De toute façon, pas besoin d'aller loin. Regardez, chaque sportif, chaque sport a forcément, je dirais, une usure spécifique. C'est pas à peine d'aller plus loin. C'est, prenez n'importe quel sport. N'importe lequel. Alors, on me dit, oui, mais la piscine. Oui, mais la piscine, vous pouvez faire, vous allez user naturellement l'ensemble. On est d'accord. Mais vous allez user la mécanique dès que vous passez un certain stade. Pour moi, c'est à chacun de choisir jusqu'où il veut déglinguer sa carcasse. Donc, moi, je n'ai pas été forcément sage à tous les niveaux. Hein, et heureusement, j'ai évité tous les sports dits violents. Mais n'empêche que quand même, je ne fais plus de volley parce que j'avais plus d'épaule. Et dès que je refais du vélo, j'ai l'épaule qui quasiment se barre en banane. Et croyez-moi, c'est très douloureux. Et surtout quand vous ne pouvez plus vous servir du bras droit, vous avez le bras qui pend parce que vous avez l'épaule qui est en miettes, quoi. Donc on peut réparer, mais il y a une limite à la réparation. Alors, une autre question de Fabien. Il me semble que dans un de tes articles, tu laisses entendre que le fromage n'est pas bon pour la santé. Peux-tu l'expliquer? En est-il de même pour tous les produits laitiers et pour tous les laits, vaches, chèvres, brebis? Bon, en clair, de toute façon, tout ce qui provient du monde animal, c'est pas bon pour nous du tout. Donc, de ce côté-là, on est OK. Ensuite, eh bien, comme je dis, il faut toujours relativiser. Nous vivons dans un monde, chimiquement pollué, électromagnétiquement pollué, enfin pollué à tous les niveaux. Donc, vouloir être bio, c'est bien, mais de toute façon, il y a une limite. Quelqu'un qui dit « moi, je mange bio » et puis qui vit à Paris, à 50 mètres du périphérique, je peux vous dire, ça sert à rien qu'il mange bio. Absolument à rien. Sinon, à le rendre un peu moins riche, on va dire, parce que ça coûte cher. C'est un ensemble qu'il faut prendre. Ça sert à quoi de vouloir être bon quelque part quand tout à côté, ça foire de tous les bouts? Il faut être en accord avec l'ensemble des choses. Donc, moi, de mon côté, je prends des produits laitiers, Hein, bien que je dis je suis végétalien, je prends des produits laitiers, je prends exactement de tout ce qui n'a pas été tué. Donc quand on a trait la vache, on ne l'a pas tué, mais bon, c'est limite, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que si on veut être vraiment strict, bah, c'est simple, tu bouffes plus rien. Donc tu peux toujours devenir vegétarien, mais ça ne durera pas toute ta vie. Donc faut vivre en accord, et je dirais en accord en termes relatifs des choses. Voilà, donc de ce côté-là, tout ce qui provient des animaux, que ça soit même le lait, dans l'absolu, c'est pas bon. Après, tu fais ce que tu veux. Hein, voilà. Service à autrui, version 3D, 4D. Hein, une question de Maya. Où situes-tu la limite entre aider son prochain en 3D et aider son prochain en 4D? J'ai pas tout saisi. Voilà, là-dessus j'ai déjà écrit un article, hein, concernant le service à soi et le service à autrui. Mais quand tu aides en 3D, c'est que c'est ton mental ego qui te mène et qui dit oui, il faut que je fasse une bonne action, parce que comme ça, en faisant une bonne action, ça va peut-être effacer les mauvaises que j'ai fait avant. En 4D, tu ne te poses pas la question si tu dois faire une bonne action, parce que tu l'es déjà dedans, puisque tu es dans le don inconditionnel. Mais c'est pas pour effacer quoi que ce soit. C'est pas pour gagner des points au ciel, tu t'en fous. Et ça, c'est une nuance fondamentale. Parce que dans le service à autrui, si tu as aidé son projet en 3D, tu le fais par rapport au système de la dualité. Tu dis plus je mettrai dans le plateau plus, et plus ça compensera le plateau moins. En 4D, il n'y a pas de plateau du tout. Voilà la différence entre les deux. Donc il y en a un qui contraint, qui est basé sur une certaine peur et aussi bah, par une attente quelque part, alors que dans le deuxième, en 4D, tu n'as absolument aucune attente, tu donnes et tu dis le reste, je m'en fous. Guérison, une question de Maya, toujours Maya Latour. Comment un corps éthérique peut-il être blessé par de la matière? De même, comment expliquer une blessure physique d'une autre vie et qui le gêne dans le corps éthérique puisse être guéri maintenant? Alors, bon, concrètement parlant. Un corps éthérique ne peut pas être blessé par de la matière, premièrement. Hein. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, comme tu dis, comment expliquer qu'une blessure physique d'une autre vie puisse être guérie maintenant? Ben, ça, c'est encore un autre phénomène. C'est-à-dire que nous sommes la somme de beaucoup de choses. Et donc, notre corps éthérique, et là, c'est encore une autre chose. Moi, je parle de corps énergétique parce que malheureusement, le corps éthérique est mélangé avec beaucoup d'autres notions comme l'âme, etc., etc. Donc, on oublie. Moi, j'aime pas ce terme éthérique. Hein, j'aime pas du tout. Donc, ton corps énergétique, il est ce qu'il est. Or, son corps énergétique est directement relié à ton corps émotionnel. Ton corps émotionnel, lui, il se trimballe quoi? Principalement. Ben, tout ce qui va toucher, on va dire, à ton âme d'une manière ou d'une autre, à ton enfant intérieur, comme on dit. Donc, si dans ton enfant intérieur, c'est-à-dire ce qui est venu s'incarner en toi, il y avait un blocage spécifique à une vie antérieure bien précise, eh bien, il va le communiquer à ton corps énergétique, qui lui ensuite ira le communiquer à ton corps physique. Alors bien sûr, après, tu peux toujours dire, ouais, bon, on va essayer comment dire, de réparer sur mon corps physique afin que mon corps énergétique se sente mieux, et peut-être que ça taquinera le corps émotionnel et que je guérirai une blessure de l'âme. Oui, c'est une démarche absolument logique, normale, je dirais, et qui, des fois, porte ses fruits. C'est évident. Mais il y a une autre force qui est encore plus forte que celle-ci. C'est-à-dire que si tu regardes ce qui est et tu l'acceptes totalement, à ce moment-là, tu corriges directement ton problème au niveau de l'âme, puisque je vous rappelle que l'âme, c'est la somme de tous nos blocages. Donc, si tu regardes un blocage et tu dis, bah, t'es plus bloqué, automatiquement, à ce moment-là, ton corps énergétique ne recevra plus ce blocage, les énergies de ce blocage, et donc ton corps physique ne le recevra plus, se réparera tout seul. Alors, il y a deux façons, comme tu vois, une façon de dire, je passe par l'intérieur directement, à partir de ce que je suis, ou je passe par l'extérieur. Donc, je peux dire, il n'y en a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Hein. Je peux dire que même, des fois, mettre les deux en même temps peuvent aider à ce que ça se passe plus vite. Parce que, bien sûr, tout va dépendre de la nature du problème. Donc je n'exclus pas l'intervention extérieure, mais il faut savoir que autant en 3D, c'était la seule manière qu'on voyait parce qu'il n'y a que les choses d'extérieur qui pouvaient, on va dire, d'une certaine manière, essayer de modifier l'intérieur, hein, sinon la médecine n'existerait pas et toutes les thérapies alternatives. Mais en 4D, ça va être l'intérieur qui va primer sur l'extérieur. Et donc, pour savoir qu'en 5D, il n'y aura plus de toubib, il n'y aura plus de thérapeute, il n'y aura plus tout ça. Donc on voit bien que de toute façon, la 4D va, d'une manière ou d'une autre, même si ça peut être gênant pour beaucoup de gens qui vivent leur vie actuellement, qui gagnent leur vie, excusez-moi, par des thérapies X, Y, Z, c'est quand nous quitterons la 3D, 4D, toute cette notion de guérison se partira avec. Hein, c'est-à-dire qu'en 5D, 6D, il n'y a plus de guérison, ça n'existe plus. On se guérira tout seul et on n'aura pas besoin des autres ou d'une thérapie alternative. Simplement, il y aura des fois des ambiances, des choses, hein, comme des temples de cristal ou des choses comme ça, où on y viendra. Et ce sera grâce donc à ces cristaux et à leurs vibrations et à notre capacité à se mettre en, nous-mêmes en accord avec qui fera que nous pourrons progresser dans le nettoyage et le déblocage de certaines énergies. Mais ce ne sont pas les cristaux qui vont nous imposer quelque chose. J'espère que vous comprenez la différence. C'est parce que vous serez dans un milieu, je dirais, plus propice à votre propre guérison qu'elle se fera. Voilà. Alors, passons à la suite. Ah, Louise, j'ai eu l'occasion d'essayer une machine à photons. Alors là, je ne connais pas. Shiren. Soit l'équivalent d'une valise qui réparait les dysfonctionnements d'un véhicule au garage par les vibrations du son. Résultat, un nettoyage des rouages du corps véhicule et une connexion plus claire. L'impression de n'avoir plus qu'un seul cerveau et un détachement plus vivable de l'émotionnel. Un état d'amour vibratoire et des énergies libres et fluides et non plus coincées. Des cellules en état de recracher enfin toutes leurs toxines en buvant 2 litres d'eau par jour. Ma question, peut-on se faire ce genre de nettoyage soi-même par la lumière ? Comment virer toutes ces merdes, produits chimiques, pollution, microbes, toxines, etc., que nous ingérons de différentes manières de notre corps ? Bon, alors, la question de Louise est un peu ambiguë pour moi, parce que d'un côté, on parle d'une machine à photons que je ne vois pas du tout ce que c'est, et puis, après, des résultats de rouage du corps véhicule, mais je ne comprends pas si c'est le corps mécanique de la bagnole ou si c'est le corps mécanique de l'humain. C'est, sincèrement, là, je ne vois pas. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, je vais donc relever quelques petits points quand même. D'abord, buvant 2 litres d'eau par jour, sincèrement, alors ça, c'est encore des conneries, excusez-moi, du même style que si vous ne buvez pas d'eau pendant 3 jours, vous allez mourir. Donc, boire 2 litres d'eau par jour est une connerie aussi absurde que de dire « Oui, mais c'est 2 litres d'eau, c'est pour un bébé de 1 an ou c'est pour un vieillard de 80 ans ou c'est pour un sportif en plein effort à 30 balais ?» C'est des fadaises. Buvez comme votre corps vous le demande. Il n'y a pas de quantité à atteindre. Si votre corps, vous buvez 1 litre, vous buvez 1 litre. Si vous buvez 5 litres, vous buvez 5 litres. Et ça ne veut pas dire que c'est tous les jours. Votre corps n'est pas en nettoyage permanent dans le sens toujours à la même vitesse. Et là, il a des hauts, il a des bas. Et donc, si vous avez fait que des efforts physiques pendant toute la journée, eh bien, vous allez voir que vos 2 litres, ça sera que dalle. Parce que rien qu'avec la sueur que vous avez envoyée, vous avez bu vos 4 litres de flotte. Et ça sera pour fini. Donc, tout ça, faut sortir ça du crâne. Ça, c'est des trucs de mecs en blouse blanche qui veulent se la jouer bien en disant, ou comme d'autres qui disent, bouffer 5 fruits et légumes par jour. C'est des conneries. Bon, ça, c'est mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, comment virer toutes ces merdes produits chimiques de notre corps ? Ben, c'est simple. Quand on est... Vous savez, moi, quand j'étais gamin, j'aimais pas aller dans les hôpitaux parce que chaque fois que je chantais le chœur, je tombais dans les pommes. Et donc, c'est sûr que si j'avais eu un accident, X, Y, Z, et qu'on m'aurait mis dans un hôpital, c'est pas difficile, j'aurais été tout le temps dans les pommes. C'est-à-dire que j'aurais été sur le lit et je serais tombé dans les pommes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas libérer son corps de produits chimiques ou de toxines ou de pollution, de tout ce que vous voulez, tant que vous vivez dans un milieu qui possède tout cela. Donc en clair, vous pouvez dépolluer jusqu'à un certain stade, mais vous ne pourrez pas aller au-delà. Vous ne pourrez pas aller au-delà parce que c'est vous qui allez ensuite dépolluer le milieu. Et là, je peux vous dire que vous avez du taf. Donc quand je voyais, excusez-moi, des Parisiens courir sur le bord des périphériques parce que le sport c'est bon, je peux vous dire que c'était des gens qui fixaient le gaz carbonique et monoxyde de carbone à fond les manettes. C'est-à-dire en fait plus ils respiraient, plus ils dépolluaient l'air. Alors eux, ils concentraient un maximum et ils pensaient faire bien. Donc soyez pas, excusez-moi, aussi con qu'un certain nombre de sportifs dans les grandes villes, c'est pas dans les grandes villes qu'il faut s'oxygéner. Donc, désolé pour tous les Parisiens, mais quand vous prenez une suée à Paris, dans n'importe quelle salle, dans n'importe quel truc, c'est sûr que vous rendez service à l'air de Paris, mais vous ne rendez pas service à vous-même. Hein. Donc, il faut toujours prendre conscience qu'il y a un milieu dans lequel nous sommes. Et donc, si vous dites, ah, je veux éviter les produits chimiques, ben, ne soyez pas dans un milieu où il y a des produits chimiques. Alors, vous savez, il suffit de prendre un truc très simple. On dit il y a les exploitants agricoles. Je ne veux pas dire les fermiers, hein, parce que ça n'existe plus. Mais les exploitants agricoles. Donc, ils exploitent la terre, oui. Ils exploitent avec quoi? À coup de produits chimiques, engrais, phytosanitaires et tout le bordel. Et le résultat, on dit, bah oui, mais je suis à la campagne, je ne comprends pas, je crève. Vous savez, les exploitants agricoles, ils ne vivent pas 80 ans aujourd'hui, hein. Hein, ceux qui sont nés pratiquement avec les produits chimiques, à 55, ils sont déjà presque à l'article de la mort. Donc, c'est pas parce que vous êtes en plein air à la Cambrousse que vous n'aurez pas de produits chimiques. Non, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les gens pensent souvent par exclusion. Ils disent, ouais, mais si je suis à la campagne, j'aurai un air plus pur qu'à la ville. Bah, ça dépend où. Donc, ne soyons pas dans l'absolu en disant, je veux tout décrasser. Vous pourrez jamais tout décrasser parce que de toute façon on vit dans un monde de crasse. Donc vous pourrez vous décrasser jusqu'à une certaine limite, mais après ça sera fini. Donc c'est pour ça que entre autres je continue à prendre des produits laitiers parce que je sais que de toute façon même si j'en prenais pas, eh bien c'est pas ça qui améliorerait de toute façon mon quotidien, puisque à un certain stade c'est même plus la peine. Sachez bien que quand même, quand quelqu'un veut parler de pureté, de dépollution, de trucs, c'est quand même un mental ego qui parle aussi. Hein? Alors, guérison. Alors attendez, hop, c'est famille, framboise. Dans l'un de tes articles sur les liens affectifs, tu dis qu'il ne faut pas se laisser piller en énergie et en amour sans pour autant couper les ponts. Comment faire? Eh bien, c'est simple, comme d'habitude. Quand on dit ne pas couper les ponts, c'est pas dire vous faites chier, vous me sucez, donc je me casse. Je ne veux plus vous voir. Ça, c'est couper les ponts, ça. Non, quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui, effectivement, quelque part, a besoin de vous pour vivre, parce que tout simplement, ben, il vous pompe de l'énergie, eh bien, vous allez voir que progressivement, plus vous allez changer de fréquence, plus cette personne viendra de moins en moins souvent parce qu'elle n'arrivera plus à trouver où se situe le connecteur pour vous sucer, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que n'étant plus sur la même bande de fréquence, eh ben, elle n'y arrive plus à prendre. Et comme elle n'arrivera plus à prendre, eh ben, elle prendra la tangente. Si elle reviendra de moins en moins souvent. Puis arrive un moment où vous direz, mais au fait, elle est devenue. Un tel, il est devenu quoi là? Je le vois plus là. Vous n'en serez même pas rendu compte. Donc c'est pas vous qui avez coupé les ponts. Donc l'objectif. Pour répondre à cette question, c'est pas vous qui êtes à l'origine de couper les ponts. Parce que quand vous faites ça, l'autre ne comprend pas. Enfin, il ne comprend pas, il se dit, ouais, non, écoute, là je ne le sais pas, mais inconsciemment je le sais. Je te pompe, mais et là tu te casses et je ne pourrai plus te pomper. Donc je vais avoir les crocs et quand je vais revenir, t'inquiète pas, je vais croquer encore plus fort. Donc ils ne sont pas contents. Parce que ben, vous êtes un garde-manger sur pattes qui partait et ça ne va pas, ça. Donc, si vous essayez de couper les ponts avec votre mental en disant non, moi, tu me fais chier, ta, 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 tu me pompes l'énergie, chaque fois que je suis avec toi, je me sens mal après et tout, alors je me casse, salut. Bon, ça, si c'est juste une petite engueulade, on est d'accord, mais si vous le faites véritablement, l'autre, il va vous en vouloir, il sera toujours connecté à vous, vous aurez une sangsue. Vous aurez encore un lien avec cette personne qui vous sucera, même si vous êtes encore à distance, car ce n'est pas la distance qui crée cette séparation. C'est le lien affectif avec cette personne. Donc, affectivement, c'est simple. Vous acceptez ce qu'il est. Mais en élevant votre fréquence, votre vibration, eh bien, naturellement, il se détachera de vous. Si lui ne change pas de fréquence. Et s'il change de fréquence, ben, il verra qu'il ne vous sucera plus parce qu'il n'en a plus besoin. Donc, tout est bien, tout est parfait en ce monde. Les gens que vous ne devez plus voir, eh bien, s'en iront de même. Parce que simplement, vous avez travaillé le truc de base qui est élever votre fréquence. Ça suffit, le reste se fera naturellement. Alors, si vous dites oui, mais c'est mon mari, tout, etc. Ben, vous arrivez, ça se fera naturellement. Arrive à un moment, ben, ça ne sera plus votre mari, tout simplement. On m'a posé la question récemment dans une conférence en me disant, dis Laurent, toi, c'est vraiment obligé que tous les gens ils se séparent. J'ai dit, écoutez, tout ce qui a été basé sur la 3D a été basé sur des contraintes, a été basé sur un certain nombre de choses. Et donc, si vous, un élément, passe en 4D, c'est-à-dire enfin, veut ascensionner, enfin, élève sa fréquence et que l'autre ne le désire pas, vous êtes sûr du résultat. Statistiquement, de toute façon, ce n'est pas difficile. C'est juste une histoire de temps. Donc, ça prendra 15 jours, 3 mois, 1 an, 5 ans, mais une chose est claire, c'est que ça cassera parce qu'il y en a un qui restera dans une fréquence alors que l'autre ira dans l'autre. Donc, ça, c'est inévitable. La deuxième chose, c'est que ben, les deux personnes, effectivement, sont sur le processus de l'ascension. Alors là, ben, il y a plus de chances, on est d'accord. Mais ils ne partent pas avec les mêmes, je dirais, les mêmes avantages l'un et l'autre. Parce que, par définition, et pour la majorité des cas, l'un masculin, l'autre est féminin. Donc ça veut dire que la personne qui est incarnée dans un corps de femme aura plus de facilité, d'une certaine manière, à pouvoir élever sa fréquence dans le sens que bah, elle est féminine, par définition. Donc elle rentrera beaucoup plus facilement en résonance. Ce qui sera beaucoup plus difficile pour l'élément mâle. Donc là, ben, conserver la même vitesse tous les deux en élévation de fréquence, ça ne va pas être simple. La seule, je dis la seule solution qu'il y a à ce niveau-là, c'est qu'ils ne se regardent pas l'un l'autre dans les yeux, mais qu'ils regardent dans la même direction en se disant, t'es là, je vais t'aider, quand tu seras en baisse, ben, je suis là, quand tu seras en hausse et moi en baisse, ben, tu seras là, on va s'épauler l'un l'autre, mais on regarde dans la même direction, mais on ne se regarde plus l'un l'autre dans les yeux, comme tu es ma moitié, moi je suis ta moitié, ça n'existera plus. Donc les individus qui découvrent en élevant leur fréquence leur androgynie et qui regardent dans la même direction, ceux-là, eh bien, pourront faire un bout de chemin beaucoup plus long ensemble. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, s'il y en a un qui regarde l'autre dans les yeux, il ne veut pas regarder la direction, tôt ou tard, il ne pourra pas suivre l'élévation de fréquence. Parce qu'il deviendra un boulet pour l'autre. Et donc, vous aurez un choix à faire. Soit dire, bah, je reste au niveau du boulet et ma petite voix va pas être du tout contente. Parce que c'est mon mari, c'est mon mec, ça fait 30 ans que je suis avec, ou 50 ans, et ceci, et ceci, et ceci, et cela. Ou soit vous suivez votre petite voix, et je peux vous dire que votre petite voix, elle s'en fout, littéralement, de votre contrat de mariage et du paquet d'années que vous avez vécu ensemble. Parce qu'elle, elle a une vue, un tableau sur le tableau général de toutes vos vies. Et quand elle regarde ça, je peux vous dire, les contrats de 3D, disant faut qu'on reste unis jusqu'à la fin de notre vie. D'ailleurs, c'est faux. Enfin, c'est faux dans le sens que s'il y en a un qui meurt et puis l'autre vit encore 30 ans derrière, ben non, ils n'ont pas été unis pour la vie. Parce qu'il y en a un qui s'est tiré et puis ben, l'autre il se retrouve tout seul et il se dit, ben ouais, elle fait chier là. Hein? Non, si c'était vraiment pour la vie, il faudrait mourir en même temps. Comme ça, au moins, il n'y en aura pas un qui serait défavorisé par rapport à l'autre. Enfin bref, ça, c'est encore des visions Enfin bref. Alors, une question de Sylvie. Comment une femme justifiera-t-elle son désir d'enfanter en 4D puis en 5D, puisque le concept même famille devrait ne plus exister. Qu'est-ce qui motivera cette envie? Alors là, bah, Sylvie, je suis désolé de te dire tout ça, mais un d'abord, la notion de famille sera élargie au stade de l'ensemble de tout ce qui est vivant. Donc tu diras pas ma famille, parce que tu n'en auras pas une, ça sera, elle t'appartiendra pas, rien ne t'appartiendra, puisque Quand on passe en 4D, déjà, on va se rendre compte que l'humanité, c'est notre famille. Donc, on va être un peu moins regardant sur ceux qui sont tout proches de nous, déjà, dans un premier temps. Et on dira pas, c'est ma famille, puisque nous aurons découvert que ce ne sont pas nos enfants, mais que ce n'est pas mon conjoint, qu'il n'y a rien qui nous appartient. Donc, déjà, il faudrait sortir de cette conception à ce niveau-là. Et qu'ensuite, motiver une envie. Alors, motiver, c'est du mental, et une envie, est-ce que ça vient du mental? C'est là la question. En fait, quand nous passerons en 5D, dans ta vie, dans une incarnation, tu auras le droit à fabriquer un enfant pour toi et un enfant pour le conjoint. En clair, dans le meilleur des cas, tu feras deux gosses. En 5 000 ans ou en 10 000 ans, ça dépend de la durée de vie que tu auras. Deux gosses. Alors, est-ce que tu seras poussé par l'envie de faire des enfants? Déjà, quand tu auras patienté pendant 1 000 ans pour avoir le droit d'en faire un, je pense que tu seras heureuse d'en faire un. Mais quand tu le feras en pleine connaissance de cause et tu sauras véritablement à quoi tu t'attends. Et ça ne sera pas, non, j'ai fait un gamin parce que bah, je n'avais pas pris de protection, j'ai oublié de prendre ma pilule ou un truc comme ça, quoi. Donc on n'est plus du tout dans la notion de 3D où on pond des gosses comme les poules pondent des œufs, quoi. C'est fini tout ça. C'est fini. Hein? Donc ne t'inquiète pas pour ça. Quand l'humanité sera en 4D, il y aura encore des enfants qui viendront. Mais ces enfants, crois-moi, ne viendront pas par hasard et pas parce qu'on a oublié de prendre la pilule. Tout est parfait en ce monde, et c'est pour ça, une lectrice m'a dit récemment aussi, elle dit, je comprends pas, je vais vers l'ascension et je viens de tomber enceinte, est-ce que c'est bon pour mon processus d'ascension ou pas? Ben, j'ai dit, écoute, si ça s'est passé comme ça, et surtout qu'en plus c'est le premier, eh ben, c'est que ça devait se faire. Donc, soit effectivement, l'entité qui va venir en toi va t'aider à ce processus d'ascension, parce que de toute façon, ça ne peut pas aller à l'encontre de ton processus d'ascension. C'est une aide supplémentaire. Et si tu es tombée enceinte, c'est parce qu'il le fallait d'une certaine manière, parce que c'était dans les plans, pour t'aider toi, mais aussi probablement pour aider l'humanité. Mais ce n'est pas un accident. Et c'est surtout pas, je dirais, un frein. Hein? Donc, la notion de famille en 4D, en 5D, sera tellement élargie que la famille proche ne voudra plus rien dire. Tout en sachant que si de toute façon tu tombes enceinte et tu fais un enfant, tu n'élèveras pas cet enfant. Je sais que c'est un peu dur, mais tu ne l'élèveras pas parce que l'enfant appartient à la communauté et il sera élevé comme un enfant de la communauté. Et non plus comme un enfant sur lequel tu pourras le baffer comme tu veux, l'engueuler comme tu veux ou lui faire manger ce que tu veux. Les enfants, à partir de 4D, on va dire, mais en 5D, ça sera définitif. N'appartient plus aucunement à celui qui l'a, excuse-moi, pondu. Même pas. Le papa, il n'aura même pas le droit au chapitre. Il aurait simplement l'honneur de pouvoir donner sa vibration via son code génétique. Ça serait un tel honneur que ça lui appartiendra absolument pas. Puisqu'il n'aura pas beaucoup de choix dans la vie, puisque dans sa vie, lui aussi, il aura le droit, ben, à participer à deux co-créations. Point barre. Donc, il va choisir, là. Et il prendra son temps. Alors, fin de la 3D. Une question de Sophie. Penses-tu qu'il y aura moins de problèmes type panique en Afrique, Sénégal par exemple, comparé à l'Occident ou l'Asie? Ben, la panique, si on est déjà dans des pays, je dirais, excuse-moi, à niveau de vie plus faible que l'occidental, ils sont déjà en état de panique, on ne va pas dire régulièrement, mais disons qu'ils vivent déjà dans des conditions où il n'en faudrait pas beaucoup pour tomber en panique. Donc, comme dirait l'autre, ils sont mieux armés face au manque d'électricité, parce que je suis sûr qu'ils n'ont pas toujours l'électricité, 24 heures sur 24 et sans aucune coupure. Donc, ils sont déjà, je dirais, presque mieux armés que nous. Hein? Donc, il y aura probablement moins de panique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Hein? Tout va dépendre de l'ampleur des phénomènes. Mais c'est sûr que vu, par exemple, si je prends l'Afrique, tout ce qui sont pris comme problématique, on va dire, en termes de survie sur le dernier centenaire, je peux vous dire que même si ça brosse de partout, ils vont continuer à suivre la musique en se disant de toute façon, c'en a une de plus parmi d'autres. Donc, oui, il y aura peut-être un peu moins de panique, mais d'un autre côté, ça sera peut-être plus sanglant aussi. J'en sais rien. Hein? J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Mais bon, ils sont mieux préparés. Alors, tu me mets aussi, j'adore créer des bijoux et accessoires juste pour la beauté et de les regarder. Est-ce que les gens porteront encore des ornements en 4D, en 5D? Ben, c'est simple. Quand on met des ornements, c'est parce qu'on veut paraître. Qu'on le veuille ou non. Sinon, on viendrait avec les bagouses, avec les colliers et tout ça à la naissance. Hein. Donc si c'est pas le cas, c'est parce qu'on n'en a pas besoin. Le reste, après, c'est que fioriture. Alors après, bah, tu fais ce que tu veux. Tout ce que je sais, c'est que apparemment, quand on est dans un monde de 5D, tout ce qui est métallique, d'une manière ou d'une autre, ne sera plus porté. Parce que nous savons tous que le métal interagit avec les champs électromagnétiques. Et donc, généralement, toutes les représentations qu'on peut faire d'intraterrestres ou d'extraterrestres, on ne les fait pas avec les bagouses et avec les colliers, et avec toutes les ornementations, les boucles d'oreilles et compagnie. En clair, ils ont besoin de rien de spécial pour être ce qu'ils sont. Donc, devenir bijoutier en 5D, je ne pense pas que ça soit. De toute façon, il n'y aura plus d'argent, donc on s'en fout. Et tu me mets en début de transition 2013, ou alors est-ce que ça n'aura plus d'importance? Je comptais en proposer dans un marché de Noël à partir du 21 décembre et aussi le premier week-end de décembre. Mais vu les événements en cours, j'hésite lourdement que faire. Bah écoute, de toute façon, tant qu'il y a des gens qui sont là pour acheter des bijoux et ça te permet de gagner ta vie, bah tu peux le faire. Mais d'une certaine manière, quand on serre les cordons de la bourse, les premières choses qu'on va arrêter d'acheter, ce sont bien sûr toutes les babioles à droite à gauche. Donc, tu peux faire des bijoux parce que t'aimes bien regarder ce que tu fais et puis tu dis c'est génial, super. Moi, je pense que quand on sera en 4D, on les offrira. On les offrira comme ça, juste pour le plaisir d'offrir, parce qu'on se dit, moi, j'adore faire ça, alors je te l'offre et puis voilà, puis c'est tout. Et puis l'autre, ben, il te refilera peut-être quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, t'en sais rien. Simplement, chacun va donner de son talent. Et donc, si ton talent est de faire des bijoux, tu donneras des bijoux. Mais bon, c'est sûr qu'en 5D, tu auras d'autres occupations certainement. Nathalie, comment sais-tu qu'on risque de vivre un moment difficile dû à une panne d'électricité prolongée ou pas, avec pour conséquence des problèmes pour boire, manger, se chauffer, etc. D'où vient cette information? Bon, ben, c'est simple. Si t'as pas connu le premier choc pétrolier ni le deuxième, ta question, je la comprends. Mais si t'avais connu ça, ben, tu comprendrais très rapidement que si on te coupe l'énergie, le monde occidental s'arrête. Et donc, il n'y a pas besoin d'où vient cette information. Les centrales nucléaires, enfin tout ce qui touche, on va dire, à l'électricité, c'est quand même quelque chose d'électromagnétique. Donc, il suffit qu'il y ait un bon petit coup de soleil bien sympathique, que Papa Soleil vienne faire un gros bisou à un moment, et on va voir que tous les transformateurs et tout ça va se foutre en court-circuit, et que c'est pas la peine d'aller loin, puisqu'il y a déjà eu ce genre de phénomène qui est arrivé, et comme tous les réseaux sont interconnectés, il suffit de faire sauter un bon transfo quelque part, et puis d'un seul coup, c'est la moitié du pays, voire tout le pays entier, qui va, et même plus, qui va être dans le noir. Donc c'est pas la peine de jouer à l'autruche en disant, mais d'où tu tiens tes informations? Une chose est claire, c'est que dès qu'il y aura quelques tremblements de terre ou quelques petites choses, ça m'étonnerait que tout soit protégé au point que le moindre court-circuit ne fasse pas sauter carrément, on va dire, les grands axes de distribution énergétique. Donc, point besoin d'être devin, point besoin de dire il faut donner des sources, le moindre bon sens, entre guillemets, te dit que de toute façon, dès qu'il y aura un problème d'électricité, eh ben on va être mal. Le monde occidental va être mal. Et donc ça, c'est pas la peine d'être un prophète pour pouvoir le dire. Hein? Donc, vaut mieux prévenir. Et puis après, bah, tu verras bien, de toute façon, quand il y aura s'il y a une coupure d'électricité générale, ben, tu le verras bien comment tu vas y réagir. Tu pourras pas dire, oui, mais mais je connaissais pas ces sources. Oui, tu seras dedans, quand tu auras le nez dans le noir, ben, tu verras comment tu feras. Hein? Donc, il suffit qu'il y ait une petite tempête locale, n'importe quoi, et puis, pof, vous avez 300 000 foyers qui n'ont plus d'électricité. Alors, bien sûr, EDF se mène le cul pour remettre tout le monde d'aplomb, hein, parce qu'ils savent très bien que tous les congélateurs, ben, ça sert plus à grand-chose. Mais, concrètement, si c'était à une échelle nationale, tu crois que EDF va mettre 24 heures pour réparer une panne nationale, voire transnationale? Ça prendra une semaine. Mais en une semaine, il va y avoir de la panique. Hein. Donc, c'est une question de bon sens. Voilà. Une question de Sophie. Par rapport aux réponses données dans les webconf précédentes, j'avais compris que l'histoire des 3 jours aurait lieu lors du passage de la 4D vers la 5D, soit dans quelques décennies. Et que les histoires de panne généralisée auraient lieu vers le 21 décembre 2012, lors du basculement des pôles, tout ça. Donc, deux événements isolés. J'ai bon ou pas bon? Alors, effectivement, il y a deux événements isolés. Hein. Il y a d'abord le passage de la Terre, on va dire, en 4D, et il y a le passage de l'humanité en 4D. Et ça, ce sont deux choses isolées. Hein. Alors, bien sûr, elles sont en liaison, toutes les deux. Donc, aujourd'hui, on rapproche ces fameux 3 jours à l'inversion des pôles. Oui, pourquoi pas? Parce que ça paraît extrêmement logique. Bon, maintenant, comment ça va se passer? Moi, je ne suis pas prophète. Hein, donc, je ne peux pas raconter tout ça et je ne peux surtout pas dire que ça va se passer le 21-12-2012. Tout ce que je sais, c'est que c'est nous-mêmes, d'une certaine manière, par notre état d'esprit et surtout notre vibration, notre fréquence, que nous allons influencer les dates. Donc, la notion temporelle dépend complètement de nous. Ensuite, eh bien, maman ou Antia, comme dirait l'autre, quand elle va décider qu'il faut y aller, il faut y aller, quoi. Hein? Donc, tout ça, bah, soit on le fera ensemble, soit on ne le fera pas ensemble. Si, par exemple, je ne sais pas, mais je dis ça comme ça par rapport, si tu avais vécu dans une famille nombreuse, comme c'est mon cas, bah, avoir 2 gamins dans les pattes, en dire, ah bon, bah, on va à la plage, et puis tu as 2 gamins dans les pattes, bon. Mais quand tu en as 7 ou 8 dans les pattes, bah, est-ce que tu crois que les 8, ils vont dire, ah oui, maman, on va à la plage, on est tous d'accord? Non. Il y en a toujours qui disent, mais non, je suis en train de jouer, là, je suis en train de faire un truc vachement important, moi, j'ai pas envie d'aller à la plage. Puis, de toute façon, l'eau, elle est froide. Donc, sur les 7 ou 8, bah, tu en as toujours 2, 3, 4 qui sont pas d'accord. Pour pas dire 5. Alors, la maman, elle fait quoi, là? Elle va dire, moi, sur les 7 bambins, j'en ai 5 qui veulent pas y aller. Bon, bah, elle va dire, je vais pas me traîner ça à la plage parce que ça va être ça va être la galère. Donc, vas-y, bon, bah, je vais faire autre chose en attendant et puis on verra ça plus tard. Mais si y en a 5 qui disent oui, puis il y en a 2 qui veulent pas, je dis, bon, bah, là, allez, on va aller à la plage, et puis les 2 autres, je vais quand même me les gérer, quoi. Parce que c'est sûr qu'ils vont me faire la gueule. Ils vont me faire chier. Donc, globalement, bah, c'est la même chose par rapport à la Terre et par rapport à l'humanité. La Terre va passer et elle passera quand elle décidera que s'il y a suffisamment d'enfants qui sont capables de la suivre et qui ne vont pas l'embêter. Parce que c'est évident que s'il y a trop d'enfants qui vont l'embêter majoritairement, elle va dire bon, bah, faut quand même pas que je fasse trop de casse. Donc on va être patiente encore un petit peu. Peut-être que si je repose la question dans 10 minutes, ça aura peut-être changé le temps qu'ils finissent leur petite partie, je sais pas quoi, de petits chevaux ou de leur Game Boy ou je sais pas quoi, quoi. Donc, je prends des exemples concrets parce que c'est ça qui arrive. La Terre, les cristaux, le 12-12-12, sont à fond. Donc, ce qui veut dire qu'elle va pouvoir permuter quand elle veut. Avant, bah, elle ne pouvait pas, comme dirait l'autre, elle n'avait pas toute la patate sous le pédalier. Donc, ok, sous la pédale. Donc maintenant, assez, le moteur, les cristaux sont à fond. Donc à partir de là, elle a toute latitude, comme dirait l'autre, d'embrayer quand elle veut. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire le 21 décembre, mais elle pourrait le faire le 5 janvier comme elle pourrait le faire le 15 août. Nous n'en savons rien parce que tout va dépendre de l'état de conscience, et donc de fréquence, de l'humanité, c'est-à-dire d'un certain nombre d'individus ayant suffisamment la vibration pour pouvoir encaisser et rassurer les autres. Parce que si ça, comment dire, s'il n'y avait pas assez de lampadaires, ben, comme dirait l'autre, les lampadaires risqueraient de se faire éteindre. Mais s'il y a suffisamment de lampadaires, alors à ce moment-là, oui. Donc, d'abord, mon membre entier va décider. Et après ça, bah, on verra ce qui se passe, puisque le deuxième, troisième, enfin, le deuxième 3 jours, entre guillemets, ça sera nous qui allons le décider. Voilà. Donc, est-ce qu'on le fera en même temps que maman? Pourquoi pas? Tout est possible. Mais on ne le fera pas avant maman. Donc, on ne passera pas en 5D avant que maman passe en 4D, hein, croyez-moi. Hein. Donc, d'abord, il faut que maman passe en 4D. Et puis, ben, nous, quand on sera dans cette 4D, c'est nous qui déciderons quand on passera en 5D. J'espère que les choses sont plus claires maintenant à ce niveau-là.